الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc, nous commençons le cours 17 de Fiqh concernant donc la traduction, l'explication de Ta'assis al-Ahkam qui est basée sur l'explication de Umdat al-Ahkam du grand savant Cheikh Al-Najmi rahimahullah ta'ala. On s'est arrêté babu ghusl janaba, donc ce qui concernait le ghusl lorsqu'on est en état de janaba, comment on fait donc ce ghusl. Et aujourd'hui donc on va commencer dans la description même, la description complète. Donc on a vu le dernier cours, le 30e hadith sous ce bab. Aujourd'hui donc on va prendre le hadith 31 et 32 qui concerne la description sifatul ghusl. Fayaqul al-mu'allifu rahimahullah ta'ala an Aisha radiyallahu ta'ala anha zawjid nabi sallallahu alayhi wa sallam أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد كلانا جنب متفق عليه عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وضوء للجنابة وضوء الجنابة فأكفى بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة فأكفى بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده متفق عليه. Ces deux hadiths qui sont rapportés par deux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première épouse Aïcha Umm Abdillah radiyallahu ta'ala anha et la deuxième épouse Maymouna qui est Maymounatu bintul Harith al-Hilaliya qui était donc l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est marié avec elle lorsque il est arrivé à Mecca au moment de faire l'Umrah al-Qadha. Et elle est morte en l'an 51 de l'Hégire, radiyallahu ta'ala anha. Donc ces deux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrivent comment il faisait sa grande ablution, son ghusl. Le shir va nous dire mawdou' al-hadithain sifatu ghusl al-janaba. Donc comme on l'a dit, c'est la description du ghusl lorsqu'on est en état de janaba. Al-janaba, c'est lorsqu'on a eu un rapport sexuel avec son épouse, ou alors qu'il y a eu donc une éjaculation, que cela soit arrivé durant la nuit, par exemple un rêve érotique. Tout ceci, à la kulli hal, ça rentre dans al-janaba. Du moment où le sperme est sorti de l'homme comme il est sorti de la femme, alors on doit faire le ghusl. Ou alors lorsque la personne a eu un rapport avec son épouse, du moment où il y a le contact entre les deux sexes, et même s'il n'y a pas eu donc l'éjaculation, alors à ce moment-là, il est obligatoire de faire le ghusl pour l'homme et pour la femme. Naam. Donc ici, pour le premier hadith de Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il se lavait de al-janaba. Il commençait par se laver les mains. Et ensuite, faisait l'odo. Odo ahu lis-salah. Comme on fait l'odo pour la prière. Donc l'odo, la petite ablution, on l'a vu auparavant, comment on la faisait en détail. Après avoir fini son odo, thumma yukhallilu biyadayhi sha'rahu. Ensuite donc, yukhallil. Il nous dit le shir, at-takhlil, infadhul asabi' mabloula bayna ash-sha'r li idkhal al-ma'i fi. C'est-à-dire donc nos mains qui sont imbibées d'eau, on les rentre ou on frotte activement notre tête jusqu'à que l'eau donc rentre et atteigne le cuir chevelu. Donc on frotte. Et on avait vu le terme takhlil, on l'a vu pour ce qui était de lihya, takhlil ou lihya, lorsqu'on faisait le takhlil de la barbe. Donc on a vu, ici c'est la même chose, sauf que c'est pour la tête. Donc on rentre bien nos doigts à l'intérieur de nos cheveux et on frotte totalement pour que l'eau, elle atteigne l'ensemble de notre cuir chevelu, de notre tête. C'est ça donc. Et avant cela, rasala yadehi, il nous dit le shir, bien entendu, rasala yadehi, c'est-à-dire il lavait ses mains, al muradu kaffehi, c'est-à-dire donc ses pommes, wa adha al rasl, ghayru al rasl alladhi ba'd al istinja, c'est-à-dire ce rasl-là, ce n'est pas le rasl que l'on fait, ou le nettoyage que l'on fait après qu'on était aux toilettes et qu'on s'est donc nettoyé les parties. Il nous dit, fadaku khasun bishimel. Cela donc c'est spécial pour ce qui est de la main gauche, pour que l'on fasse partir, pour que l'on dissipe donc le liquide qui reste dans notre main. Tayyib, le liquide qui reste dans notre main après qu'on a eu un rapport. Donc c'est pour faire partir cela. Hatta idha dhanna annahu qad arwa basharatahu. Donc al-damir fi basharatihi. الضمير ici يعود على الشعر أو على رأس أو على المختصر. طيب. C'est-à-dire donc qu'une fois qu'il est sûr que l'eau a bien atteint donc le cuir chevelu ici, أفاض عليه الماء ثلاث مرات. C'est-à-dire donc qu'il déverse l'eau sur lui trois fois. Ici, lorsqu'on dit trois fois, il y a une divergence chez les savants. Certains voient que il est mashrou'. Il est légiféré de se passer l'eau trois fois. Tayyib. Et d'autres disent une seule fois. Et ils prennent comme qiyas, analogie à l'eau. C'est-à-dire que l'eau, on fait trois fois l'eau. Donc de même pour ce qui est de le grand rousl. Et ça c'est connu dans le madhab de l'imam Ahmed. Mais comme on a dit, il y a d'autres savants qui ont dit non. Ils ont dit, et c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah wa jama'atun min al-ulama, et d'autres savants aussi, ils ont dit annahu la tathlitha fi ghusl al-badan li'adami sihhati 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fala yushra'. C'est-à-dire donc qu'il n'y a pas de preuve qu'on se lave trois fois le corps durant le grand ghusl, car cela n'est pas attesté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fala yushra, donc ce n'est pas légiféré. Ça, c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et d'autres savants. Tayyib. Et ici, bien entendu, afada alayhi al-ma'a thalatha marrat, donc c'est au-dessus de sa tête. Et certains savants donc ont expliqué, ils ont dit, c'est d'abord sur le côté droit, après au milieu, et ensuite sur le côté gauche. Sur le côté droit, le milieu, et ensuite le côté gauche. Ce qui fait donc trois fois. ce qui fait donc ici trois fois. La ya'um jami' al-ras bal marratan lil janib al-ayman wa marratan lil aysar wa marratan lil wasat. Naam, une fois à droite, une fois à gauche et une fois au milieu. Thumma ghassala sa'ira jasadihi. Donc ensuite il a lavé tout son corps. Wa kanat taqul kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahid. C'est-à-dire, elle nous dit, Aïcha, qu'elle se lave avec le prophète Sun dans un grand récipient, dans un bac. Donc tous les deux, ils étaient dans ce bac et se lavaient tous les deux de Al-Janaba. Kilana Junub. On était tous les deux donc en état de Janaba. Ça c'est pour ce qui est du premier hadith. Deuxième hadith, An Maymuna. Elle nous dit, Wada'tu li Nabi sallallahu alayhi wa sallam wadu al-Janaba. Ou wadu al-Janaba. Donc ici, on dit bil fatha. On a déjà expliqué la différence qu'il y a entre al-wudu wa al-wudu. Donc ici, elle nous dit qu'elle a placé Maymouna wada'tu lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam wudu al-janaba. C'est-à-dire qu'elle a placé l'eau, car on a vu qu'avec le fatha, wudu, c'est ce avec quoi on fait l'eau. Et c'est bien entendu donc l'eau. Et ici donc une parole qui est rappelée par le shir. وضوء الجنابة قال ابن دقيق العيد الوضوء بفتح الواء وهل هو اسم لمطلق الماء أو للماء مضافا إلى الوضوء وقد يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم لمطلق الماء فإنها لم تضيف إلى الوضوء أو لم تضاف إلى الوضوء بل إلى الجنابة. Tout simplement ici, est-ce que on est d'accord que bil fatha al-wudu, c'est l'eau. Mais est-ce que cette eau-là, c'est l'eau de manière générale qu'on appelle al-wudu ou juste l'eau qu'on utilise pour faire al-wudu ou alors pour faire al-rusl. D'accord ? Et donc il nous dit le shir ici que al-ma ou al-wudu, elle a été ici annexée à al-janaba. Yani pas à al-wudu, la petite ablution, mais il a le janaba. Tayyib. Donc c'est pour ça qu'on pourrait comprendre que c'est l'eau spéciale pour al janaba. Mais on a vu également que dans d'autres hadiths, on a vu le wudu qui était également pour le petit ablution. Tayyib. Et le shir nous dit donc qult. Donc ça c'est après avoir rapporté la parole de Ibn Daqiq al-Aid, il nous dit qult. Donc ici c'est shir al-Najmi. شيخ النجمي لي قد قيل إن الوضوء مأخوذ من الوضاءة التي هي النظافة والحسن. C'est-à-dire le terme الوضوء c'est pris de الوضاءة. 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 Qui veut dire النظافة, la propreté, الحسن. نعم. كأنه لما كان سببا لها سمي باسمها. C'est-à-dire donc que cette eau-là, elle nous permet de nous laver et d'être propre. Donc elle a pris ce nom al-wada, qui est donc al-wada'atu, ou al-wada qui vient de al-wada'a, al-wada'a qui est al-nadafa. Donc elle a pris ce nom. وَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ غَرِيبًا فِي اللُّغَةِ تَسْمِيَةُ الْمَاءِ الْمُعَدِّ لِلْغُسْلِ وَضُوءًا لِأَنَّهُ يَجْلِبُ الْوَضَاءَةَ أَكْثَرَ مِمَّا يَجْلِبُهَا الْوَضُوء. Donc ici à la kulli hal, le shir nous dit que ce n'est pas étrange que dans la langue arabe, on a nommé l'eau qu'on utilisait pour le rousl, pour la grande ablution, qu'on a nommé wadu'an, wadu'an, tayyib, qui en vérité, ici, pris du terme al-wada'atu, al-wada'atu, tayyib. C'est pour nous faire la différence que l'eau ici, est-ce qu'on veut par là al-janaba ou est-ce qu'on veut par là al-wudu, tayyib. Et il nous dit que cette eau-là, elle apporte. Qu'on utilise, elle apporte plus de propreté encore que ce qu'on utilise ou ce que pourrait nous apporter la petite ablution de wudu. Donc ici c'est une faïda. À la kulli hal, nous, comme on l'a déjà vu, wudu, ici de retenir que a wudu bil fath, c'est pour l'eau, ce qu'on utilise, et le wudu bi al-dhamma, c'est l'acte même. Tayyib. Et est-ce que on veut par là le terme wudu un terme général pour désigner l'eau, ou alors uniquement un terme pour désigner al-wudu. Ou alors al-wudu ou al-janaba. Uniquement al-janaba sans wudu. Donc, on voit ici les paroles, et elles prennent tout leur sens, les paroles des savants. Fa'akfa biyamini ala yasari marrataini aw thalathan. Fa'akfa, on a déjà vu ce terme, ay amala al-ina aw asghaw. C'est-à-dire donc on renverse le récipient où il y a de l'eau sur notre main. On ne rentre pas notre main directement dedans. Donc c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa'akfa biyamini, c'est-à-dire il prenait le récipient avec sa main droite et ensuite il le versait sur sa main gauche. Marratan aw thalathan, deux fois ou trois fois. Et comme on a vu donc, c'est pour faire partir ar-rutuba, c'est-à-dire donc l'humidité encore qui est présente sur la main et qui est due ou le produit de ce qui s'est passé après l'acte sexuel. Thumma ghassala farjahu, et ensuite il a lavé donc son sexe, ses parties intimes. Thumma daraba yadahu bil ardi aw al-ha'ita marratayn aw thalathan. Après qu'il a lavé donc ses parties, il a frappé avec sa main la terre, ou alors le mur, deux fois ou trois fois. Thumma tamadmada wa istanshaqa. Donc il a fait ensuite le madmada wa istinshaq, wa ghassala wajhahu wa dhira'ayhi. Et ensuite il a lavé son visage et également il a lavé donc ses coudes. Et l'ensemble donc de ses mains. Thumma afada ala ra'si al-ma. Donc ici lorsqu'il dit wa ghassala wajhahu wa dhira'ayhi, c'était avant donc al-madmada, c'est après donc al-madmada wa al-istinshaq, donc ça rentre dans al-wudu ça. طيب. Thumma afada ala ra'si al-ma, et ensuite donc afada ma'na asala, c'est-à-dire qu'il a versé, il a déversé l'eau sur sa tête. Thumma ghassala jasadahu, et ensuite il a lavé tout son corps. Thumma tanaha ay tabaada an mawdi'i al-awwal, c'est-à-dire donc il s'est déplacé, il était à un endroit, il était en train de se laver, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc il avait déjà versé l'eau sur tout son corps, et après qu'il ait fini cela, il s'est déplacé, d'accord, fa ghassala rijlayhi, et il a nettoyé ses deux pieds. فَأَتَيْتُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا. Donc elle est venue ensuite, Maïmouna, avec un chiffon ou un torchon ou autre, tout ce qui rentre dans Fima'an al-Khirqa, et bien entendu ici pour qu'il s'essuie de l'eau, pour qu'il s'essuie de l'eau qu'il avait sur son corps. فَلَمْ يُرِدْهَا, il ne l'a pas voulu. Et donc وَجَعَلَ يَنْفُبُ الْمَاءَ بِيَدِهِ. Yanfubu alma biyadi. Donc il secouait comme s'il secouait donc l'eau de ses mains. Taïb, donc il n'a pas utilisé ici un torchon pour s'essuyer. Ici, on va en venir à al-ma'na al-ijmali li hadithay Aisha wa Maymuna radiyallahu ta'ala anhuma. Donc pour ce qui est du sens en général des deux hadiths, il nous dit anna an-nabiy sallam kana idha ightasala min al-janaba يبدأ بغسل كفيه, c'est-à-dire avant qu'il commence de se laver, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de al-janaba, il commençait d'abord, et avant de rentrer l'eau ou ses mains dans l'eau ou dans le récipient d'eau, il les lavait, il avait donc ses mains ou alors ses paumes. ثم يغسل فرجه بشماله, après cela il lave ses parties intimes avec sa main gauche. ثم يدلكها بالتراب, après cela sa main gauche donc il la frotte sur la terre. Et bien sûr ici al-faida, c'est pour faire partir l'odeur et pour faire partir donc l'humidité qu'il y a sur cette main, comme on a expliqué. ويغسلها مرتين او ثلاثا, donc il la lave deux ou trois fois comme dans le hadith de Maymouna. ثم يتمضمض ويستنشق, donc il fait le madmada ou l'istinshaq. Ici ça rentre bien entendu, est-ce que, non, on va revenir sur cette question, Est-ce que c'est obligatoire ou pas? وَيَخْسِلْ وَجَّهُ وَيَدَيْهِ كَمَا يَتَوَضَّ لِلصَّلَاةِ. Et ensuite, donc, il lave son visage, il lave ses mains, donc, jusqu'au mirfaqin, taïb, comme il le fait pour l'obo, pour la petite ablution que l'on accomplit pour la prière, pour pouvoir prier. ثُمَّ يَحْفِي عَلَى رَأْسِيَ الْمَاءِ. Et ensuite, donc, il verse l'eau sur sa tête. وَيُخَلِّلُهُ بِأَصَابِعِهِ حَتَّى يَرْوِي بَشْرَةَ رَأْسِهِ. Et ensuite, donc, il frotte avec ses doigts jusqu'à ce que le cuir chevelu soit imbibé d'eau. Que l'eau, donc, est bien parvenue, donc, au cuir chevelu. Donc, la peau de la tête. طيب. ثُمَّ يَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ. Et ensuite, il lave l'ensemble de son corps. ثُمَّ يَتَنَحَى عَنْ مَوْضِعٍ عن موضع مختصله ويغسل رجليه وإن شاء غسلهما في المختصل. Ensuite, donc, il se déplace là où il se lavait. Donc, il s'est déplacé de la position là où il se lavait ou de l'endroit là où il se lavait pour laver à ce moment-là ses deux pieds. وإن شاء غسلهما في المختصل. Et ensuite, donc, ou sinon, il le lavait au même endroit, c'est-à-dire sans se déplacer. Et bien entendu, on va comprendre à partir de ces hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith de Aïcha, il faisait l'eau totalement. C'est-à-dire l'eau d'eau jusqu'à laver ses pieds. Et ensuite, il commençait le ghusl. Et dans le hadith de Maïmouna, on voit que, c'est-à-dire qu'il a retardé de laver ses pieds. Une fois, donc il a fait l'eau d'eau normale pour la prière, mais il n'a pas lavé ses pieds. Taïb. Et ensuite, il a commencé le ghusl totalement, donc en frottant sa tête et en faisant couler l'eau sur tout son corps, et ensuite il a lavé ses pieds en dernier, d'accord. Donc il a retardé ici le lavage de ses pieds, mais lorsqu'il a retardé le lavage de ses pieds, comme dans le hadith de Maïmouna, il s'est déplacé. C'est ce qu'il faut comprendre, et c'est donc ici précis. Ensuite il nous dit wa annahu aradat alayhi maymunatu al-mindil faraddahu. Et donc Maïmouna lui a proposé donc un chiffon ou un mouchoir ou ce dont on utilise pour s'essuyer et qu'il l'a refusé. Il l'a refusé, le prophète sallallahu
alayhi wa sallam. Wa kana yaghtasilu min al-janabati min ina'in wahid yaghtarifani minhu jami'an hatta takhtalifa aydihuma fi.
Et donc ensuite, il se lavait également avec Aïcha dans le même récipient et il prenait l'eau tous les deux de ce même récipient pour se laver donc de El Janaba, et ses mains donc se touchaient durant cela. Yani, chacun prenait l'eau avec ses mains de ce récipient, pour nous prouver donc que cela est permis. On va voir maintenant le fiqh de ces deux hadiths, les questions qui en découlent. Parmi celles-là, il nous dit awalan yu'khad min hadhain al-hadithain sifatul ghusl al-kamil. وعلى الكمال والاستحباب حمل الجمهور غالب الأفعال الواردة في هذين الحديثين لكن اختلفوا في وجوب مسائل من ذلك. Donc on prend de ce hadith, comme on a dit, la description totale du ghusl, comment on fait le ghusl, le grand ablution. Et donc ici c'est على الكمال, c'est-à-dire c'est ce qui est parfait et c'est ce qui est mustahab, c'est ce qui est préférable de faire. C'est comme cela que la plupart des savants, ou la majorité des savants, le Jumhur, ils ont compris ces actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant donc la description du ghusl à travers ces deux hadiths, hadith de Aïcha et le hadith de Maïmouna. Mais ils ont divergé, qu'est-ce qui est obligatoire dans cela? Qu'est-ce qui est obligatoire dans cela? Bien entendu, il y a des choses qui sont mustahab, il y a des choses qui vont être obligatoires. C'est ici donc où la divergence elle apparaît. Donc la première chose, اختلفوا في المضمضة في المضمضة والاستنشاق فقال بوجوبهما أبو حنيفة وقال الجمهور بالسنية. Donc on a déjà vu cela pour ce qui est de la question de al-madmada ou l'istinshaq durant la grande ablution. Les savants al-jumhur, ils ont dit que c'est une sunna, c'est pas obligatoire, mais l'imam Abu Hanifa, lui, il voit l'obligation. Ça on l'a déjà vu. الثانية اختلفوا في وجوب التدليك فأوجبه مالك والجمهور على استحبابه. De même, est-ce qu'on doit se frotter? Est-ce qu'on doit se frotter l'eau avec notre main, c'est-à-dire tout notre corps, ou simplement
verser l'eau sur notre corps. Donc il y a une différence, si on verse uniquement l'eau sur notre corps, c'est une chose. Mais lorsqu'on verse l'eau et ensuite on frotte avec notre main tout notre corps en entier, c'est ce qu'on appelle donc tadlik, c'est également une autre chose. C'est une chose en plus, on va dire. Naam. L'imam Malik lui a vu que le tadlik, se frotter, donc, c'était obligatoire. Et la majorité des savants, ils ont vu que c'était mustahab. Ensuite, thalithatu wa rabi'a, la troisième et la quatrième question de jurisprudence ici, de fiqh. Ikhtalafu fi wujub at-tartib wal muwala. Donc, pour ce qui est de at-tartib wal muwala, on a déjà vu le tartib, c'est l'ordre. Wal muwala, c'est de faire tout d'un coup, ou en même temps, sans qu'on délaisse une chose plus tard, ou qu'on fasse une chose entre le lavage de deux membres, ou alors qu'on laisse un arrêt, ou alors qu'on laisse un temps entre le lavage de deux membres, comme on l'a expliqué le mu'ala déjà. فَقَلَ بِوُجُوبِهِمَا بَعْضُهُمْ مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهَا. Donc certains, parmi les savants, ils ont vu que c'était obligatoire. C'est-à-dire qu'on devait faire le tartib, comme c'est venu dans le hadith de Aïcha de Maïmouna, et en plus de cela, on devait le faire d'un seul coup. On ne devait pas retarder des membres par rapport à d'autres. C'est-à-dire donc, on devait faire en un seul temps le ghusl, totalement, avec les actes décrits. Ceux qui ont dit que c'est obligatoire à tartib, voilà, ceux qui ont vu comme preuve et qui ont pris comme preuve Mustadillin bi hadithi Salama. Donc ils ont pris le hadith de Salama. Et ce hadith de Salama, radiallahu ta'ala anha, qui est le suivant. Quand on dit le hadith de Salama, c'est bien entendu ici la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Salama nous le rapporte. Inna ma yakfiki antahfi ala ra'siki thalatha hathayat thumma tafidina alayki al-ma'a. فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ لِأَنَّ ثُمَّ تَقْتَضِي التَّرْتِبِ وَمَذَابَ الْجُمْهُرِ سُنِّيَتُهَا. Donc ils ont dit dans ce hadith de Salama, le prophète sallam, il a utilisé le terme thumma. Et thumma, on a vu donc déjà que thumma, ça implique l'ordre. On voit bien dans le hadith إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَاسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتِ. Donc il te suffit de prendre de l'eau et ensuite de frotter donc ta main, ou Arfon, de frotter ta tête trois fois, de frotter ta tête avec l'eau trois fois, d'accord, et ensuite de verser l'eau sur ton corps. Thumma tafidina alayki alma. Donc après la tête, tu verses l'eau sur tout ton corps. Thumma, donc ici thumma est utilisé, ça veut dire donc que ça implique un tartib, c'est ça leur preuve. فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ. Et à ce moment-là, tu seras devenu donc pur. Et le Jumhur, la majorité des savants, eux, ils ont vu que c'était une sunna. Le Tartib, ils ont vu, ou l'ordre, c'était une sunna. C'était pas obligatoire de commencer par un membre et ensuite l'autre. Ensuite, il nous dit وَيَتَرَجَّحُ الْقَوْلُ بِسُنِّيَةُ الْمُوَالَاتِ بِحَدِيثِ مَيْمُونَ ثُمَّ تَنَاحَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حيث أخر غسل الرجلين عن سائر الجسد. Et ensuite le shir ici, il voit de manière claire que al-muwala, c'est une sunna, mais c'est pas obligatoire. Et la preuve, c'est le hadith qu'on a étudié, le hadith de Maïmouna, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, thumma tanaha fa ghasala rijlay, il s'est déplacé, il a lavé ses deux pieds. Donc ici on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a retardé le lavage de ses deux pieds par rapport au reste du corps. Donc s'il a retardé cela jusqu'à qu'il a fait un acte, ici il y a eu un acte qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il s'est déplacé, le fait qu'il s'est déplacé, qu'ensuite il s'est lavé les pieds, ça veut dire qu'il n'y a pas de mu'ala, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le faire en même temps, car il y a eu un déplacement du prophète sallam, donc il y a eu un acte entre cela. Donc ici ça annule quoi? L'obligation du al-mu'ala. Al-mu'ala, c'est simplement une sunna. Ensuite, il nous dit « Amma sa'iru ma dhakara fihima ou ma dhukira fihima fawa masnoun ghaslu al-kaffain. » Donc, se laver les deux mains avant, se laver les mains avant, comme on l'a vu dans le hadith, ça, c'est une sunna, c'est pas obligatoire. Ou al-istinja, donc se laver les parties, c'est également, ce n'est pas obligatoire, c'est une sunna également.
ودلك الشمال بالأرض مع غسلها لإذهاب الرطوبة والرائحة. Également, le fait de frotter sa main gauche sur la terre, tayyib, afin de faire partir les odeurs, comme on a expliqué, les odeurs et l'humidité qui se trouvent sur cette main-là. Également, ça, c'est une sunna, ce n'est pas obligatoire. وَتَقْدِيمُ أَعْضَى الْوُضُوءِ مَا عَدَى الْقَدَمَيْنِ. Donc, de mettre en avant, d'abord, de faire en premier, les membres que l'on lave durant l'wudu. Les membres que l'on lave durant l'wudu. Et comme on le fait durant le wudu, c'est-à-dire la petite ablution, à part, bien entendu, les deux pieds, parce qu'on a vu ici qu'il y avait un ta'khir par rapport aux deux pieds, c'est-à-dire que le prophète a retardé les deux pieds. Ça également, c'est une sunna, de laver d'abord les membres que l'on lave durant le wudu, la petite ablution, c'est également une sunna, de les mettre en avant, ou de le faire en premier, en priorité. C'est également une sunna, on peut le faire après. Wa tathlithu fil ghasalat. Et donc de faire trois fois al-rasalat, de se laver donc trois fois. On a expliqué également donc l'avis ou la divergence des savants par rapport au tathlith ici. Et une différence qu'il y a à faire entre le tathlith de tout le corps et bien entendu le tathlith que l'on fait sur la tête. Sur la tête. Comme il est venu dans le hadith de Umm Salama. Tahthir la rasika thalatha hathayat. Tayyib. Ensuite, وَتَخْلِي الشعر. Donc le fait de se frotter les cheveux, donc le تَخْلِيل, se frotter les cheveux, c'est également une sunna. وَالْبَدْءُ بِالْمَيَامِينَ. Le fait de commencer par la droite, c'est également une sunna, pas obligatoire. وَغَسْلُ الْقَدَمَيْنَ بَعْدَ التَّنَاحِي عَنَ الْمُغْتَسَلِ. Également se laver les deux pieds une fois qu'on s'est déplacé de l'endroit où on a fait d'abord le ghusl, également ça c'est une sunna. وقال قوم بغسلها قبل الشروع حملا للوضوء المذكور على حقيقته. Donc comme on a vu, certains également savants, ils ont dit qu'il était possible de laver ses pieds au moment où on fait d'abord le lavage des membres que l'on fait durant le petit wudu. Tayyib, c'est-à-dire donc vu que dans le hadith de Aïcha, il est dit c'est-à-dire qu'il a fait la petite ablution qu'il faisait pour la prière. Donc ça comprend dedans qu'il a lavé ses pieds à ce moment-là. Et qu'après qu'il a lavé ses pieds, il a commencé, et ensuite il a commencé à laver sa tête. Donc ça prouve ici que les pieds, on peut les laver avant de commencer la grande ablution totale, ou alors les délaisser pour la fin. Les deux sont permis. هذا والغسل الكامل أما المجزي فهو غسل جميع البدن على أي كيفية كانت ولو انغمس في ماء بنية الغسل أجزاؤه عند قوم وقال آخرون هو ما تضمنه حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. Donc certains savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ça c'est ce qu'on a vu, minbab el kamel. C'est pour ce qui est un rousse qui est parfait et dont on a fait les actes mustahab qui sont conseillés à faire et qui relèvent de la sunna, pas de l'obligation. Par contre, pour ce qui est du minimum, c'est-à-dire ce qui va être compté comme le rousse, on va faire un minimum et c'est ce qui va être compté comme le rousse, sans qu'on ait fait tous les actes qui sont surérogatoires. Qui relève de la sunna. Il nous dit le shir donc, des savants ils ont dit, c'est se laver l'ensemble de son corps. Le principal. Sans regarder comment on va faire, mais le principal c'est se laver totalement le corps. Donc le corps, il soit lavé totalement par l'eau. Et il nous dit, et même si il rentre donc tout son corps dans l'eau. Par exemple, comme une personne qui rentrait son corps dans une bassine complète d'eau, ou alors une baignoire, d'accord, ou alors quelqu'un qui rentrait dans la mer et qui plonge dans la mer, qui plonge son corps totalement dans la mer, tout entier, son corps tout entier dans la mer, ça suffit pour dire que, avec la niya bien entendu, et na, ça de toute manière, je pense que c'est clair pour tout le monde, c'est qu'il faut la niya. Donc la niya, ici,
il faut qu'elle soit présente. Donc si on a la niya de faire le ghusl et qu'on plonge dans l'eau totalement, son corps dans l'eau totalement, alors ça suffit pour que ça soit considéré comme un ghusl et qu'on puisse ensuite faire tout ce qu'on peut faire lorsqu'on est en état de pureté. Ça c'est chez des savants, et d'autres savants ils ont dit وَمَا تَضَمَّنَهُ حَدِيثُ أُمُّ سَلَمَةَ. Le hadith qu'on a vu de Umm Salama, إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَن تَحْثِي عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تَفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ. Ils ont dit, ce qui est compris dans ce hadith de Umm Salama, c'est le minimum à faire durant quoi? Durant al-ghusl. Et on voit dans ce hadith, il est cité par le prophète sur sallam, إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَن تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ, c'est-à-dire de frotter ta tête, de mettre donc de l'eau sur ta tête trois fois, taïb, et ensuite de laver, ou alors c'est l'ensemble de l'eau sur ton corps. Ils ont dit ça, ce sifa, cette description, ça suffit pour dire que c'est le minimum pour accomplir al-rusl, qui sera compté comme tel dans la législation. Donc voilà pour ce qui est de ces questions là ensuite il nous dit thaniyan yukhadhu min qawli Aisha كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب جواز اغتسال الرجل مع امرأته ونظر كل منهما إلى عورة الآخر. Également, une autre question ici, c'est lorsque dans le hadith de Aïcha, elle nous cite que le prophète sallam se lavait avec son épouse donc dans un même récipient, alors qu'ils étaient tous les deux en état de janaba. Il nous dit donc qu'il est permis que l'homme et la femme se lavent ensemble et que chacun peut regarder les parties intimes de l'autre. C'est permis et ce n'est pas interdit ou alors déconseillé. ثالثاً يؤخذ من قول ميمونة فأتيت بخرقة فلم يريدها أن تمندل خلاف الأولى والله أعلم. C'est-à-dire تمندل, utiliser le mendil. خلاف الأولى, c'est-à-dire donc utiliser le mendil, donc le mouchoir ou une serviette ou autre, tout ce qui nous sert pour sécher notre corps de l'eau. Il nous dit, on comprend donc que c'est permis, mais c'est contraire à ce qui est préférable. Car le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsque Maïmouna lui a apporté pour se sécher, il ne l'a pas voulu, le prophète sallam. Il a délaissé cela pour que l'eau coule, on va dire, naturellement et son corps se sèche naturellement, sans utiliser donc de mouchoir ou autre pour se sécher. Donc voilà ce qu'on comprend et ce qu'on voit à travers les paroles du shir. On va rajouter certains points. Le premier point, c'est est-ce que le fait de se déplacer durant le rousl pour se laver les pieds comme l'a fait le prophète sallam dans le hadith de Maïmouna, est-ce que c'est une sunna mutlaqan? Est-ce qu'on considère comme c'est une sunna absolue? Certains savants, et ça c'est l'avis de Cheikh Uthaymeen, ils ne voient pas que c'est une sunna qui est mutlaqa, mais ils voient que c'est une chose que l'on fait dans le besoin. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait cela même dans un cas où les toilettes qu'on utilise, elles sont propres? Il nous dit Cheikh Uthaymeen, wa dhahiru 'inda al-haja, c'est-à-dire que l'on fait dans le besoin. لأن في حديث عائشة لم يغسل رجلي ورواية أنه غسل رجلي ضعيفة. Donc lui voit le cheikh que dans le hadith de Aïcha, il n'est pas cité qu'il a lavé ses pieds. Taïb. Donc c'est comme s'il comprend le cheikh que laver les pieds ici, c'est au moment de al-haja, lorsqu'on en a besoin, et de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Taïb. Et il voit que dans le hadith de Aïcha, il n'est pas cité les pieds. Mais comme on a dit, beaucoup de savants, lorsque Aïcha l'a cité, qu'il se lavait ou qu'il faisait l'eau d'eau, donc lorsqu'il faisait l'eau d'eau, il est compris dedans les pieds. Donc ils ont compris, eux, beaucoup de savants, qu'il se lavait quand même les pieds, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, simplement, pour voir que certains savants, ils ne voyaient pas que le fait de se déplacer pour se laver les pieds, que c'est une sunna mutlaqa. À la kulli hal ici, la parole du shir, c'est simplement pour Al-Faïda, taïb. À la Kulihal, ici, la parole du shir Najmi et ce qu'il a détaillé, c'est qu'on comprend que c'est une sunna. Ça reste une sunna. Naam. Ensuite, une autre question importante pour ce qui est de Al-Rusl. Lorsqu'on fait le ghusl, est-ce que narfa al hadathain? Vous savez que le ghusl, il enlève l'impureté majeure, qui est le janaba, et le wudu, il enlève l'impureté mineure, qui advient lorsqu'on a des gaz, lorsqu'on va aux toilettes, etc. Tout ce qui annule donc le wudu, comme c'est connu. Tayyib. Donc ici, lorsqu'on fait le ghusl, est-ce qu'on fait quand on fait le ghusl? Est-ce que les deux impuretés, mineures et majeures, sont dissipées? Ou alors uniquement, lorsqu'on fait le ghusl, uniquement l'impureté majeure est dissipée? Et ça revient donc à la niyya. Ça revient à la niyya, c'est-à-dire l'intention. Et l'intention, elle a 4 cas ici. L'intention, elle a 4 cas. Le premier cas, an yanwi raf al hadathain jami'an. C'est-à-dire, au moment où je fais le ghusl, j'ai dans ma niyya de dissiper la grande ablution et la petite ablution. Donc, dans ce cas-là, ma niyya est comptée comme telle. Et uniquement avec le ghusl, les deux impuretés majeures et mineures sont dissipées. Le deuxième cas de niyya, an yanwi raf al hadath al akbar faqat. C'est-à-dire, quand je fais le ghusl, ma niyya, c'est uniquement d'enlever mon impureté qui est majeure, donc le janaba. Wa yaskut an al asghar, c'est-à-dire il ne pense pas ou il ne met pas la niyya pour ce qui est de l'impureté mineure. Ici, certains savants, ils ont dit donc que d'après sa niyya, uniquement al ghusl va lui permettre ici de dissiper la grande ablution sans la petite ablution. Donc ensuite, pour dissiper la petite ablution, il sera obligé de faire l'obo. Mais le choix de certains, et c'est le choix de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il voit que annahu yartafi'u al-hadathain jami'an. C'est-à-dire, même s'il n'a pas fait cette niyya, il dit malgré cela, les deux hadath, ils sont dissipés. Les deux, donc, impuretés, mineures et majeures. Et la preuve de cela, où il prend comme preuve, cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتْطَهَرُوا » C'est-à-dire, si vous êtes en état de junub, en état donc d'impureté majeure qui est le janaba, « فَاتْطَهَرُوا » Alors, purifiez-vous. « فَإِذَا تَطَهَرَ بِنِيَةِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَإِنَّهُ يُجْزِي لِأَنَّ اللَّهُ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا سَوَى ذَلِكَ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ » Non. C'est-à-dire donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il n'a pas cité autre chose si ce n'est donc que lorsque la personne est en état de janaba, fattaharu, de se donc purifier. Donc du moment où il est arrivé à tahara avec al-ghusl, donc ça suffira à dissiper l'impureté majeure et également mineure, même s'il n'a pas eu la niyya, et qu'il a eu uniquement la niyya de faire ou de dissiper la grande impureté, l'impureté majeure. Donc ça, c'est le deuxième cas. Ensuite, le troisième cas, ici il a la niyya uniquement de faire ce qui lui est permis qu'avec le wudu. Un exemple, il fait le ghusl pour aller faire la prière. Il veut aller prier, il est en état de janaba, il fait le ghusl. Donc le fait qu'il a eu la niyya de faire le ghusl pour aller prier, et on sait que la prière n'est acceptée que dans le cas où l'impureté majeure et mineure soit dissipée. Donc le fait que cette niyya, elle est présente, ça lui suffit pour que uniquement le ghusl lui permette, avec cette niyya, de dissiper le hadath, l'impureté majeure et mineure. Tayyib. Et ensuite, la quatrième, il fait la grande ablution uniquement pour la niyya de quoi? De dissiper la grande impureté pour faire un acte. Et donc là, il y a une différence. Pour faire un acte qui va lui permettre d'être en état de pureté suffisante pour qu'il ait la permission de faire cela. Je vais donner un exemple, ce sera plus simple. C'est-à-dire, lui, maintenant, il est en état de janaba. Tayyib. Maintenant, il ne veut pas faire la prière, mais il veut lire uniquement le Coran. Ou alors, il veut rester dans la mosquée. On sait que pour rester dans la mosquée ou pour lire le Coran, il faut être en état, et y suivant bien entendu les avis de jurisprudence, il faut être en état de pureté majeure, c'est-à-dire donc on n'est pas en état de janaba. Donc lui maintenant, s'il a niya uniquement de lire le Coran ou alors de rester dans la mosquée, et qu'il fait donc son ghusl uniquement pour cela, alors à ce moment-là, il sera compté pour lui uniquement donc la dissipation de quoi ? De l'impureté majeure. Et donc ici, il y a une différence entre le troisième et le quatrième. Le troisième, il avait la niya de faire quelque chose où la petite ablution est obligatoire. Et donc, la dissipation du hadath al-asrar, de l'impureté mineure, était obligatoire. Donc, la prière. Et donc, à ce moment-là, avec sa niya de faire la prière, les deux impuretés, mineures et majeures, sont dissipées. Ici, non. C'est différent. Il a l'intention de faire un acte qui lui est demandé d'avoir uniquement la pureté majeure. La pureté majeure. Pas la pureté mineure, qui s'obtient par la petite ablution. Et à titre d'exemple, qira'at al-Qur'an ou de rester dans la mosquée. Donc à ce moment-là, s'il a cette niya-là, alors ça lui sera compté comme tel. C'est-à-dire donc qu'ici, elle ne sera pas comptée la dissipation de l'impureté mineure. Donc c'est la différence qu'il y a à faire entre la troisième et la quatrième niya. Donc ici c'est un tafsil que l'on donne pour les quatre cas, suivant notre niya. Donc je répète pour que ça soit simple. La personne, elle a la niya de faire, ou juste avec le roussel, d'enlever l'impureté mineure et majeure. C'est compté comme tel. Ensuite, il a uniquement la niya de dissiper l'impureté majeure. Et il ne pense pas à l'impureté mineure. Dans ce cas-là, comme c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, on a vu l'istidlal, « وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتْطَهَرُوا » Donc ils ont vu que dans le verset, il n'est pas cité, il n'est rien cité, uniquement la grande « يَنِيَ الطَّهَرَا » c'est-à-dire la pureté. Donc il n'est pas cité, il n'est pas détaillé ici la petite ablution. Alors à ce moment-là, quand même s'il ne peut la niya de dissiper la petite impureté ou l'impureté mineure, alors quand même cette impureté mineure, elle est dissipée. Ensuite, le troisième cas et le quatrième cas. Le troisième cas, c'est lorsqu'il veut faire un acte où l'impureté mineure doit être dissipée obligatoirement, à titre d'exemple, à Salah. Donc avec cette niya de faire la prière, avec son roussel, les deux impuretés sont dissipées. Et ensuite, le quatrième, c'est avec sa niya de faire un acte qui demande uniquement d'être en état de pureté majeure, pas mineure, comme le fait de lire le Coran et de rester à la mosquée. Donc s'il fait avec cette niya-là, alors la dissipation du hadath al-asrar, de l'impureté mineure, n'est pas comptée ici. Et donc, si après avoir lu le Coran et après avoir resté dans la mosquée, il veut faire la prière, alors il devra le faire le dos. Donc voilà pour ce qui est du détail de ces quatre cas. Taïb, on s'arrête ici, Inch'Allah, on en a terminé pour la description de Al-Rusl. Et on verra, Inch'Allah, la suite la semaine prochaine. Bi'idhnillahi ta'ala. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.